Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On vient d'entendre un extrait de ce fameux chant, le Alléluia incontournable du Messie de Handel. C'était enregistré avec l'Orchestre classique de Montréal l'an dernier, je crois, à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Cette année, l'Orchestre classique de Montréal, lauréate du prix Juno 2024, renouvelle cette tradition des fêtes avec son tout nouveau directeur musical. Nous accueillons aujourd'hui donc André Fer, qui est à la tête de l'OCM sous sa direction. Donc, l'œuvre sera présentée à nouveau dans le cadre enchanté de la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph ce jeudi 11 décembre. Maestro Fer, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors, l'OSM a une longue histoire avec le Messie. En tant que nouveau directeur musical, comment vous allez renouveler cette tradition annuelle?
Je pense que, en fait, un détail un peu banal, mais très technique, c'est que cette année, je travaillais sur le matériel, les partitions qu'on a depuis quelques années. Et je me suis dit, est-ce que ça serait peut-être pas le temps d'avoir des partitions propres et un nouveau matériel pour repartir à neuf, justement? Et donc, on a acheté un tout nouveau matériel que j'ai annoté un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications et chaque chef annote un peu cette partition-là comme il veut aussi, dépendamment de ce qu'il recherche. Donc, ça a commencé un peu par ça, d'avoir un nouveau matériel tout propre et partir de là dans une nouvelle idée, mais bon, les gens sont habitués à le jouer à chaque année, donc c'est vraiment... Il faut faire un mélange entre ce qu'on peut changer rapidement et ce que les gens sont habitués de faire à chaque année, mais j'ai très hâte d'embarquer dans cette aventure-là pour la première fois avec l'Orchestre classique.
Alors, comment abordez-vous donc cette œuvre?
C'est une œuvre très, très particulière parce que un oratorio... C'est bien entendu, avec l'histoire, c'est une œuvre religieuse, donc sacrée. Donc c'est très, il y a comme la plupart du temps, il y a une espèce de distance aussi face au sujet, parce que bon, c'est tout ce qui est très sacré, fallait faire attention aussi pour pas en faire trop. L'opéra, c'était l'autre côté où on peut mettre en scène, avoir quelque chose de plus dramatique, plus personnel. Sauf que Handel était un compositeur d'opéra italien aussi. Et donc, cet oratorio-là, en fait, c'est très... Il s'est inspiré beaucoup de l'opéra italien et je trouve que c'est très dramatique en soi comme œuvre. Et souvent, ce que les oratorios font aussi, c'est qu'on a les personnages qui parlent ou qui récitent certaines choses, alors qu'ici, Handel a décidé de pas mettre... Il n'y a personne qui est personnifié. Il n'y a pas de personnage. Il y a des solistes, mais on ne sait pas qui parle. On ne sait pas qui fait dérouler l'action, et c'est comme un grand tableau de toute la vie du Messie, donc les prophéties, sa naissance et sa mort, et aussi le après aussi. Donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, et ça a permis, je pense, une liberté puis une flexibilité dans la façon dont il a composé, puis d'avoir le texte aussi sous la main. Donc c'est une œuvre qui est très particulière parce que ça reste pas aussi... Il n'y a pas cette distance-là ou cette froideur un peu stoïque face aux religieux. Donc Handel, il s'est amusé un petit peu avec ça. Donc ça fait que dès le début de sa composition, cette œuvre-là a été très, très populaire et ça a touché beaucoup les gens parce que c'était quelque chose de plus humain, plus chaleureux aussi dans la façon dont le sujet était traité, là.
Quelle sera, si je peux me permettre, votre touche personnelle cette année à cette œuvre?
Mais je pense que j'aime bien aller dans cet aspect-là un peu dramatique italien où on peut exagérer certaines nuances, certains points dramatiques de l'œuvre. Donc, dans la deuxième partie de l'oratorio, le chœur est très... Il y a beaucoup de parties qui sont très, très corsées, très dramatiques. Et je pense qu'on peut aller très loin dans le caractère de ces chœurs-là. Et j'aime bien aussi, à travers le dramatisme de l'œuvre, d'avoir une fin aussi qui finit un peu en méditation un peu. Donc c'est très, je pense que c'est vraiment l'arche dramatique et de ressortir chaque mouvement et chaque dans chaque mouvement, il y a différents aspects dramatiques différents, que ce soit quelque chose plus de recueillement ou quelque chose de plus dramatique et très très sombre aussi. Donc moi j'aime bien aller chercher ces couleurs-là pour faire vraiment une différence à travers chaque mouvement, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de mouvements très courts mais qui se suivent un après l'autre. Donc de construire à travers ça et d'avoir une arche bien construite à travers 2 heures de concert.
Vous avez touché à ça tout à l'heure, mais je vais quand même revenir là-dessus. Pourquoi, selon vous, le Messie touche-t-il autant de monde, autant de gens chaque année? Puis ça revient, puis encore de nos jours, puis on voit que les gens sont, c'est comme une espèce de... Collectivement, ils sont exaltés là, par cette œuvre.
Oui, bien, en fait, je pense que... Handel a été un compositeur très intelligent aussi, qui mettait beaucoup d'efforts et beaucoup de passion dans ce qu'il composait, mais aussi il essayait de trouver peut-être un succès à travers les œuvres créées. Donc, il mesurait le succès en fonction de la popularité ou de la réaction du public dans ce temps-là. Et ce que le Messie a fait, en fait, c'est qu'en Angleterre, les sociétés chorales se sont beaucoup développées. À travers le 19e siècle, ça chantait énormément. Et la touche magique de cette œuvre-là, c'est que comme aujourd'hui, en fait, la plupart du temps, ça peut être fait avec autant des chorales professionnelles que des chorales où il n'y a que des amateurs. Parce que ça se chante bien. La plupart des choses sont ça demande, c'est un défi, mais ça se fait très bien, ça se chante bien, ça fait pas peur à personne nécessairement. Donc, c'est quelque chose qui est un défi qui est très très plaisant à relever parce que ça se fait très bien. Donc, je pense qu'avec le développement des chœurs aussi en Angleterre à cette époque-là, ça a permis à ce que l'œuvre soit facilement jouée et chantée sans aucun énorme problème, comme des fois la musique contemporaine peut être très compliquée et ça éloigne un peu les gens tellement ça peut être complexe, alors que celle-ci est d'une complexité extraordinaire, mais techniquement ça peut les limites sont pas aussi difficiles que d'autres œuvres, donc ça a permis de gagner en popularité assez rapidement. Et je pense aussi le sujet, comme il est traité un peu plus chaleureusement et d'avoir un rapport très très humain au sujet, à la vie de Jésus aussi, de ses souffrances, de ce qu'il a vécu. Je pense que ça joue en partie beaucoup de la popularité de cette pièce. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de chorales dans le monde, que ce soit amateur ou professionnel, cette œuvre-là est chantée partout, là.
Vous allez jouer dans la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Quel rôle l'acoustique et l'atmosphère de l'oratoire jouent-elles dans la manière dont vous allez diriger cette œuvre et dans l'expérience du public?
Bien, c'est un lieu très spirituel, donc ça aide déjà d'être dans une atmosphère et dans ce bain-là tout de suite. On répète aussi dans la crypte, donc on est directement dans l'acoustique de l'oratoire. Je pense que c'est vraiment un son spécial qui donne une expérience différente au public, certainement. Salle de concert, c'est toujours un bel endroit, mais je pense que pour une œuvre comme celle-là, c'est difficile à recréer dans une salle de concert cette atmosphère-là avec le décor qui entoure aussi la crypte. Donc, c'est très aussi espèce de je pense que ça permet plus de recueillement aussi également. Et comme j'aime bien croire à l'expérience du concert et de ce qu'on fait, nous, à l'orchestre classique et en général dans la musique classique, c'est vraiment un moment où on peut apprécier de la musique ensemble, en communauté et sans être bombardé par des courriels ou des messages textes à chaque 2 secondes. Et donc, ça permet vraiment cette atmosphère-là de recueillement, oui, et juste de méditation aussi avec chacun nos expériences de vie personnelles. Donc, je trouve que c'est vraiment une expérience unique et dans un lieu unique pour cette œuvre-là.
Oui, on va rappeler aux gens d'éteindre leur cellulaire et leur montre et leur pagette, ça n'existe plus trop tôt. Et surtout, je vais le dire, de ne pas applaudir après chaque morceau que vous trouvez beau, parce que habituellement, on attend à la fin de l'oratorio pour applaudir. Mais en tout cas, faites-vous lever debout les gens pendant le Alléluia?
Je pense que les gens le font naturellement. Ça dépend des endroits dans le monde, mais je pense que de ce que j'ai vu par le passé, les gens le font naturellement. Et je l'ai fait l'année dernière en Roumanie, par exemple. Oui, les gens se lèvent et je sais pas, il y a une espèce de tradition non dite que c'est une espèce de moment fort dans l'oratorio, ce mouvement-là. Oui, et les gens chantent aussi, hein.
Ah oui.
Ça arrive souvent que les gens, ben oui, parce que c'est tellement connu et c'est tellement, beaucoup de gens l'ont soit déjà chanté, comme je disais, dans des chorales un peu partout dans le monde, ou à Montréal, ou au Québec, c'est quelque chose qui est très, très connu. Donc, ça peut arriver assez souvent que les gens chantent avec le cœur aussi.
Oui, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a le chœur, en fait, des filles, les chœurs québécois Filles de l'Île et chantres musiciens. Puis je vais rappeler qu'il y a Jacqueline Woodley, soprano, et la mezzo-soprano Camilla Montefusco, et le ténor Adam Luther et le baryton Jamal Altiti qui seront là. Et je rappelle aussi donc que c'est le 11 décembre à 19h30 à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Les billets sont en vente, hein, sur le site de orchestre.ca, 20 $ à 99 $. Maestro Ferrer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée.
Bonne journée.